Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules surtout.
On a des fuck you des fois. Moi, j'ai jamais dit fuck you parce que j'ai dit fuck you, je prends 10 matchs.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
21h, on est de retour dans l'After, on est ensemble jusqu'à minuit. À partir de 22h, Gilbert Bribois viendra décrypter l'actualité du football hexagonal. Nous, on s'intéresse à l'Europe. Il va falloir prendre cette habitude les lundis de 20h à 22h. Ce sera un rendez-vous avec les drôles de dames. Elles sont avec moi, les drôles de dames, avec Johan Crochet pour l'Italie, Paulo Breitner pour l'Allemagne et Julien Laurence pour l'Angleterre. Justement, Julien, parlons quand même d'un grand malade, Manchester United.
Ouais, un très grand malade, je sais pas par où on va commencer.
Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'était dur. Rien que d'y penser, c'est dur. Il y a des choses à dire. Hein.
Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Alors, on va commencer par ce qu'on a vu hier contre Brighton. Alors, c'était pas un match facile. D'entrée, déjà, pour commencer, pour Erik ten Hag, de débuter son histoire en Première Ligue avec Manchester United, contre une équipe qui est une belle équipe, même si effectivement les noms, c'est pas non plus des superstars mondiales, mais c'est une équipe qui joue tellement bien au football.
Quel travail de Potter.
Incroyable, qui est tellement compliqué de jouer contre elle, parce qu'il y a tellement de flexibilité tactique, il y a tellement de joueurs qui savent très bien quoi faire dans ce système-là, dans cette. Enfin, voilà, c'est
on rappelle qu'ils ont perdu Bissouma et Cucurella quand même par rapport à l'an dernier. Et les mecs, ils arrivent à Old Trafford, ils sont dans leur jardin. Le deuxième but avec la talonnade de Trossard qui démarre à 70 mètres du but, c'est
doublé de Gross hein, pour
Brighton. Ce qu'il fait avec cette équipe, c'est assez
spécial. McAllister.
Donc c'était pas un cadeau, mais après voilà, il y a énormément de choses dont on doit parler et que j'ai du mal à comprendre de mettre Christian Eriksen comme faux numéro 9 par exemple d'entrée. Alors Ten Hag nous expliquait avant la rencontre, oui, il a joué à ce poste-là, mais il y a très longtemps, d'accord, parce qu'il a joué il y a très longtemps. Tu penses que tu peux le faire jouer à ce poste-là alors que ça convenait pas du tout, c'était pas du tout ça. Alors que Ronaldo soit pas prêt physiquement parce qu'il a raté la tournée de pré-saison, je comprends très bien qu'il ait que 7 ou 8 jours d'entraînement dans les jambes, je comprends très bien aussi. Mais après, tu peux faire jouer Marcus Rashford en numéro 9, par exemple. T'as un jeune Garnacho qui s'est très bien entraîné, qui a plutôt fait des bons matchs amicaux d'avant-saison aussi, que t'aurais pu lancer pour 50 minutes, 55 minutes. Et puis après, de toute façon, quoi qu'il arrive, on savait que Ronaldo allait rentrer en jeu. Donc j'ai pas compris, comme j'ai pas compris les trois remplacements à la 89e minute. Alors t'es mené 2-1, et tu fais rentrer des joueurs à la 90e minute, mais ça n'a aucun sens. Et puis après, je pense que c'est une équipe qui a encore beaucoup de cicatrices de la saison passée, qui a psychologiquement encore beaucoup de problèmes, mentalement aussi, qui a une certaine faiblesse finalement mentalement. On l'a vu, hein, dès que Bruno Fernandes rate cette première occasion, qu'il aurait dû marquer d'ailleurs, et qu'après il commence à ne plus avoir la maîtrise du jeu, plus avoir le ballon, ils se sont complètement recroquevillés sur eux-mêmes, il n'y avait plus rien collectivement, et ils ont eu peur.
Je t'interromps, Julien, en entendant ton discours, j'ai l'impression qu'à tes yeux, Ten Hag, c'est il y a une erreur de casting, que c'est pas la bonne personne. Je sais pas si c'est.
On se sent
assez virulent sur Ten Hag. Je voulais, là, pour le coup, avoir ton avis, pas tellement.
Moi, je trouve que les choix qu'il a fait hier, il s'est pas aidé lui-même, finalement. Et pour moi, c'est un problème. Lisandro Martinez, je suis désolé, mais quand tu joues contre Danny Welbeck, qui est un ancien de la Première Ligue, et en plus, contre son ancien, qui retrouve son ancien club, son ancien stade, Graham Potter a dit, il avait la gastro toute la nuit. Il a dit, mais il aurait joué avec les toilettes sur le dos, tellement il voulait jouer ce match. Mais pas Lisandro Martinez dans un match pareil. Tu sais très bien que l'autre, il va lui rentrer dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé Martinez à chaque fois parce qu'il découvrait la Première Ligue. Pour lui, c'était tout nouveau. Et en plus, il jouait avec Maguire à côté de lui.
En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, Lisandro, non?
Je suis pas persuadé. Il donne le pénalty. Il doit y avoir pénalty 100 fois sur Welbeck. Quand il lui rentre dedans, il touche même pas le ballon. Il fait n'importe quoi. Il fait
moi, c'est plus là où t'as raison. C'est plus le choix Eriksen. Et de toute façon, en deuxième mi-temps, quand il était en numéro 6, c'était en registre. Bah,
forcément,
ouais. C'était beaucoup mieux.
Et Lisandro Martinez qui a pris un carton jaune dès la 45e. Mais l'autre défenseur central, Maguire, à 53e. Donc forcément, c'est un
handicap. Non, mais le deuxième but, par exemple, le deuxième but où ils sont, il y en a un qui est devant, ils sont l'un devant l'autre à 5 mètres d'écart. Non, mais défensivement, c'était du grand n'importe quoi. T'avais l'impression que c'était le dimanche matin chez les amateurs en district, quoi. C'était hallucinant. Mais ça, c'est pas de la faute de Ten Hag non plus. Tout n'est pas de sa faute. C'est ça que je veux dire. C'est pas une erreur de casting parce que c'est un très grand entraîneur et il va le prouver. Il faudra peut-être beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'argent et recruter des meilleurs joueurs qu'Arnautovic et etc. Mais quoi qu'il a, je pense qu'à un moment, il le montrera.
Après, il y a des joueurs, il va falloir qu'ils se réveillent quand même, Julien, parce que Bruno Fernandes Gomez, ça commence à durer. Rashford, il va falloir un jour qu'il redevienne footballeur parce que son manque de finition, tu parlais de Bruno Fernandes tout à l'heure, mais en deuxième mi-temps, il en a une ou deux très très importantes et je trouve il a un énorme manque de confiance et je sais pas quand est-ce qu'il va se remettre à l'endroit. Il y a le match de McTominay au milieu de terrain.
D'ailleurs, Alfred sur Direct Studio, il dit que c'est pas la position d'Eriksen qui pose problème, mais que c'est deux milieux, c'est deux pivots qui jouent vers arrière.
Le petit Caicedo qui de Brighton, mais il s'est régalé toute la rencontre. Et il a 20 ans, le mec.
C'est sûr. Et moi, en fait, ce que j'ai, et on en parlait un petit peu tout à l'heure sur Rabiot, mais l'absence encore une fois de politique de recrutement et de structure au niveau du recrutement. Et moi, je trouve ça hallucinant pour un club de Manchester United, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a très longtemps. Mais qu'aujourd'hui, pendant 8 semaines, t'es essayé de faire Frankie de Jong, alors que maintenant, à un moment, faut passer à autre chose, comme on disait, mais que t'as même pas activé un plan B ou un plan C, qu'on est le 8 août et que tu joues encore avec Fred McTominay, qui, un, ne sont pas assez bons, de toute façon, pour le niveau où Manchester United devrait être. Et deux, c'est pas des joueurs qui sont compatibles avec Erik Ten Hag et le football qu'ils souhaitent développer dans cette équipe-là, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment, mais, je sais pas, même, va recruter d'autres joueurs. Mais, commencer la saison avec des joueurs pareils qui, déjà, la saison dernière, n'étaient pas assez bons. Ils vont l'être encore moins avec un vrai entraîneur. Pour moi, c'était.
Ah, mais ça, mais moi, je comprends pas comment le 8 août, tu peux avoir que Malacia et Lisandro Martinez comme recrues dans une équipe, une équipe où tu as fait 6e l'année dernière. Normalement, un club comme Manchester United doit être agressif sur le mercato des transferts. Ils doivent utiliser énormément de pistes et énormément de plans. Tout à l'heure, je parlais de Bellingham, mais des joueurs pareils, normalement, c'est tu dois mettre l'oseille, tu dois mettre l'argent et tu as l'impression que tous les plans sont pas fructueux. Chesko qui a 21 ans, mais là il va partir à Leipzig. Alors que ça fait 10 jours qu'apparemment t'es dessus. Donc,
il va apprendre à jouer au football à la pied.
Oui, après. Non, mais après tu soulèves un point très intéressant, Polo. C'est que est-ce que les joueurs veulent aller à Manchester United aujourd'hui? Est-ce que si t'es à la place de Chesko, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Leipzig ou à Manchester United? Si t'es à la place de Bellingham, qu'est-ce que tu fais? Si t'es à la place de Frenkie de Jong, bah tu restes au Barça. Tu vois, aujourd'hui, le nombre de joueurs qui sont arrivés à Manchester United et qui, dans un marasme, n'ont pas réussi individuellement à se régaler, c'est aussi une question qu'il faut poser.
Julien, le Manchester United n'est plus aussi attractif?
Non, peut-être pas. Et puis il n'y a pas la Ligue des Champions non plus. Hein.
Ouais, aussi,
donc à un moment, aussi. C'est aussi un gros problème pour attirer les meilleurs joueurs. Ça, c'est sûr. Et je vois pas comment. Enfin, pour inverser la tendance, maintenant, il va falloir vraiment travailler très dur. Là, ils vont à Brentford le week-end prochain avant de recevoir Liverpool. Donc les deux prochaines journées, en plus, aller à Brentford, c'est pas gagné non plus. Alors la réception de Liverpool, on se rappelle tout ce qui s'est passé la saison dernière.
Brentford, ils viennent de faire 2-2 contre Leicester. Attention, c'est
ouais,
pas évident.
Bon, après, ils ont été très mauvais pendant les premières 45 minutes, mais tu vas aller là-bas, c'est un petit stade, ils font des touches à la Rory Delap de la bonne époque de Stoke City, c'est compliqué, tu vois, donc non, vraiment bon courage à Ten Hag parce qu'il va en avoir vraiment besoin. Je crois qu'il l'a reconnu lui-même après la rencontre, le pauvre il avait l'air mais vraiment défait de chez défait. Je pense qu'il n'avait pas vu venir parce que finalement les matchs amicaux de pression avaient été plutôt satisfaisants. Il y a eu plein de bonnes choses, l'absence de Martial leur a fait beaucoup de mal pour cette rencontre-là. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte encore de tout le travail qu'il y a à faire. C'est assez incroyable.
C'est une question de Lolo sur Direct Studio qui dit est-ce que l'investisseur de Manchester United savent où va leur argent? Mais clairement, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce que ça fait quand même plusieurs années hein, que United, on va dire, s'écroule petit à petit, doucement mais sûrement.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors, il y a un nouveau pilote qui est Richard Arnold, qui a donc pris la suite de son grand copain Ed Woodward, qui lui avait fait n'importe quoi. On nous disait qu'il était mieux, qu'il serait moins impliqué dans le côté football, parce que Woodward voulait aussi recruter et tout ça, et jouer au directeur sportif, ce qu'il était incapable de faire. Pour l'instant, sincèrement, je vois pas de changement. La famille Glazer, un des fils était là hier au match. Ils sont aussi là pour prendre l'argent, ils le voient comme un business. Il y a eu encore une assez grande manifestation hier avant la rencontre pour dire Glazer out, il faut qu'ils vendent le club. Gary Neville en a rajouté une couche après la rencontre sur Sky en disant voilà, maintenant c'est maintenant qu'il faut vendre parce que le club ne va plus nulle part finalement avec eux aujourd'hui maintenant, donc c'est pour le bien de tout le monde, il faut qu'ils vendent.
Mais même sur le plan du business, Julien, moi j'ai vu passer une news sur tu sais le sponsor maillot. Ouais. Donc il y avait Chevrolet. Après il y a eu TeamViewer qui avait déjà payé moins cher. C'est et ça. Là, ce qui se dit, c'est que celui qui va arriver derrière TeamViewer va payer encore moins cher que TeamViewer. Ouais. Donc même eux, qui sont intéressés par l'argent, donc tant que ça coulait à flot, que le club était malgré tout en Ligue des Champions cette année, il n'y aura pas non plus les recettes de la Ligue des Champions. à la fois télévisuelle et aussi en billetterie. Même eux qui disaient, bah, nous, on s'en fout, tant que ça continue que ça rentre, de tourner le business, ça va.
Exactement.
Là, quand ça va commencer à coincer, ça peut être différent.
Ouais, ouais. Et moi, et d'ailleurs, c'est peut-être ça le problème finalement, hein, quand on parle d'autres joueurs, qui sont pas allés sur un Bellingham, qui sont pas allés sur un Rice, à des 100 millions, 120 millions, et qu'au final, tu vas prendre Arnautovic à 15 et Rabiot à 18. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, on me dit que, par exemple, que pour les travaux de parce que Old Trafford d'aujourd'hui, pour ceux qui sont allés récemment, je sais pas si, mais ça tombe de plus en plus en ruine. Il y a des fuites partout. Tu sens, c'est un stade magnifique, mais c'est un stade qui vieillit beaucoup. Mais
avec tout ce qu'ils ont mangé vieux, là, ils veulent pas sortir.
Et ben, et le truc, c'est que moi, on me dit que même, ben, le financement pour je sais pas le mot en français, refurbishing, mais pour rafistoler un petit peu
le Trafford.
Le rembourrer.
Ouais, ou je sais pas, ou
non, ce serait ça, rembourrer la traduction littérale, ce serait ça, mais
la rénovation.
En tout cas par moment,
c'est pas mieux, la rénovation,
tout ça, parce que ça coûterait beaucoup d'argent, mais même ça, c'était difficile à aller chercher et tout ça, donc peut-être qu'il y a un problème d'argent, je sais pas.
Et puis il y a quand même les dépenses passées. Sancho, c'est combien?
80.
C'était 80, donc il reste encore effectivement pas mal d'argent à payer à Dortmund.
Maguire, c'était combien? Enfin, tu vois, ouais,
Maguire, c'est amorti maintenant. C'est amorti maintenant.
Tout mais est amorti, ouais.
Maintenant, il y a le problème. Ouais,
on va en parler d'amortissement maintenant avec Maguire, mais en tout cas, c'est payé.
Ouais.
Mais après, maintenant, c'est Cristiano. Qu'est-ce qui va se passer avec Cristiano?
Parce qu'il y a ce cas-là aussi. Hein.
Est-ce que tu le... Hier, on a bien vu que toutes les caméras, tout le monde était fixé sur lui. Chaque réaction, son visage sur le premier but, après le deuxième, tout le temps avant d'entrer en jeu. De toute façon, quoi qu'il arrive, entre maintenant et le 31 août, qu'il reste ou qu'il parte, on sera obnubilé par Cristiano, son avenir. Est-ce qu'il sera titulaire à Brentford? Comment va se passer l'entraînement? Parce que est-ce qu'hier c'était une sanction qu'il soit sur le banc, ou est-ce que vraiment c'est parce qu'il était à court de rythme et parce que physiquement il n'était pas encore prêt? On ne sait pas, c'est pas très clair non plus. On sait que Georges Mendes cherche un autre club. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que tu le gardes? Mais dans quel rôle? Enfin voilà, il y a tout ça aussi, toutes ces questions-là à répondre.
Merci Julien. On va faire un petit tour en Ligue 2. Le match entre le Stade Malherbe de Caen et le FC Metz. Ça chauffe un petit peu, Christophe Lécuyer.
Ouais, ça se tend sur la pelouse avec deux avertissements là en l'espace d'une minute, tous les deux infligés aux Messins par l'arbitre Marc Bollanger, qui a tout d'abord averti Fally Kandé et puis Maïga. Alors ça a fait sortir de ses gonds Laszlo Bologny. Il a 69 ans, Laszlo Bologny, mais alors il a rien perdu de sa verve. Il était furieux dans sa surface technique, l'entraîneur roumain. Ça lui a valu non seulement un rappel à l'ordre du quatrième arbitre, puis ensuite un avertissement de la part de l'arbitre central. Mais ça témoigne aussi que ces joueurs sont en difficulté. Ils sont en retard depuis quelques minutes. Ils avaient plutôt bien entamé la partie et ils ont tendance à reculer là depuis une dizaine de minutes maintenant. Les Canets n'en profitent pas pour autant, du moins ils ne réussissent pas pour autant à se procurer des occasions franches dans cette partie. Le match est pour le reste assez équilibré. 29 minutes de jeu ici à Dornano, toujours 0-0 entre Caen et Metz.
C'est vrai qu'il n'a rien perdu de sa verve, Laszlo Bologny. L'avantage, c'est qu'il ressemble à 69 ans à la tête qu'il avait quand il en avait 39.
Ah, c'est vrai.
Ça n'a absolument pas bougé. Il est dans le formal. On revient dans un instant dans l'after pour la suite de la Ligue 2 pour continuer à parler des championnats étrangers avec nos drôles de dames.
RMC, l'after foot, Timothée Mémont.
21h15, on est ensemble dans l'after jusqu'à minuit. On est avec nos drôles de dames tous les lundis de 20h à 22h. Prenez cette habitude, ce sera la place faite à la table des drôles de dames avec évidemment nos spécialistes, Johan Crochet pour l'Italie, Polo Breitner pour l'Allemagne, Julien Laurence pour l'Angleterre. Polo, ça vient d'être officialisé, Modeste à Dortmund. Ouais. Côté transfert, parlons-en un petit peu. C'est pour évidemment pallier l'absence de Haller, absent pour quelques semaines, quelques que moi même.
Ça fait beaucoup de bruit en Allemagne.
Ouais.
Ça fait beaucoup de bruit du côté de Cologne parce qu'on ne l'a pas vu arriver, même si c'était un petit peu compliqué le français à Cologne puisqu'il n'avait plus qu'une année de contrat. Il a 34 ans, rappelons-le. Il sort d'une saison exceptionnelle où il s'est relancé complètement avec 20 buts l'année dernière. Rappelons que Cologne s'est qualifié pour l'Europa Conference League. Et c'est un gros salaire. C'était un gros salaire à Cologne puisqu'il émergeait à 3,5 millions, millions par an. Et Cologne est dans une phase de restructuration de l'effectif. Et cette opportunité de faire partir le français, même si on l'aurait bien gardé, parce que Cologne est quand même un candidat malgré, alors ça va être une des spécificités de la saison, c'est que l'Union et Cologne, qui sont des équipes européennes, sont des candidats naturels à la relégation, donc ça va être un petit peu compliqué en Europe, je pense, pour le football allemand cette année. On verra ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, mais c'est un choix naturel dans le sens où il faut pallier à l'air. On connaît le profil d'Haller, on connaît le profil d'Anthony Modeste, c'est quasiment le même, bon, c'est les jeux, ce sont des grands attaquants de plus d'1m90. Il va signer apparemment pour un salaire. Alors on dit que Dortmund ne veut pas dépenser pour un package global de plus de 10 millions d'euros. Donc apparemment le transfert va se faire pour entre 3 et 4 millions d'euros. Et donc il devrait peut-être presque doubler son salaire, en tout cas gagner un petit peu plus du côté du Borussia Dortmund. Ça râle beaucoup encore une fois du côté de Cologne parce qu'il devait jouer ce week-end et quelques heures avant la rencontre importante contre Schalke 04, et ben le coach Baumgart a dû se séparer du Français. Il arrive, c'est un excellent choix pour moi parce qu'encore une fois il a 34 ans, il aura qu'un an de contrat. Il est là pour pallier évidemment l'absence de Sébastien Haller pour longtemps. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le Français ou qui l'ont vu évoluer, par exemple, moi je me rappelle son passage à Saint-Étienne en 2020-2021 qui était dramatique lors du
mercato. Après Timothée s'en souvient aussi.
Enfin, en Bundesliga, c'est une valeur sûre. Oui. Alors moi, je le connais un petit peu. Il a un petit problème. C'est ce qu'on appelle aussi. On avait parlé avec Julien l'année dernière sur le podcast, avec notamment le cas Haaland en Allemagne. En Allemagne, Modeste, c'est ce qu'on appelle une Ich AG. C'est moi, société anonyme. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste. Où en gros, il y a que l'argent. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Il y a que l'argent qui compte. Et donc, il change de club un petit peu comme ça. Rappelons qu'il était parti en Chine pendant un moment, que Cologne l'avait récupéré par la suite alors qu'il avait fait une très belle opération financière, qu'on l'avait relancé, et là il part quasiment du jour au lendemain au Borussia Dortmund. Mais pour avoir discuté avec lui il y a quelques années, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas utilisé tout son potentiel dans sa carrière. En tout cas, il a quand même joué 189 matchs de Bundesliga derrière lui, il a 83 buts quand même, dont les 20 l'année dernière. Il en a mis 25 en 2016-2017 l'époque déjà à Cologne. Et c'est quelqu'un qui est très irrégulier, mais on le limite souvent à sa taille ou à ses périodes où il n'a pas réussi. Mais moi, je suis désolé.
Il va être servi à Dortmund en plus avec la qualité
Je pense qu'il va être servi. Et puis surtout, on le limite en fait à sa taille en disant ouais, il s'est juste mis de la tête et ceci, cela. Mais c'est quelqu'un un peu comme Olivier Giroud qui a souvent été critiqué. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus souple qu'on veut bien le dire. Alors, c'est pas un grand attaquant, c'est pas la question, mais compte tenu de la situation au Borussia Dortmund et de l'absence de Sébastien Haller, je pense que c'est un excellent choix d'aller chercher. Et puis en plus, il va découvrir la Coupe d'Europe. Oui.
Polo, une question sur le petit Moukoko là que j'ai trouvé plutôt intéressant contre le Bayern. C'est quoi la stratégie de Dortmund cette saison? Il part avec un peu plus de temps de jeu que l'année dernière, ou ça va être
On rappelle que c'est un immense espoir du Borussia. Ouais,
qui est très jeune,
Moukoko,
qui est très jeune, mais qui
effectivement, en tout cas, était titulaire.
Il a quoi, 17? Il a 17, 18.
C'est ça, ouais. Il a le problème, si tu veux, c'est qu'on disait que c'était un immense espoir il y a 2 ans, et en 2 ans, l'année dernière, il a perdu son temps parce que Marco Rose ne le faisait pas jouer. Il lui reste un an de contrat, si je me trompe pas, et c'est compliqué de le faire prolonger au Borussia Dortmund parce que lui, il veut du temps de jeu, quoi. Or, on connaît ça, c'est
seulement
tout, hein. 17 ans, donc il a battu tous les. Il a battu tous les records de temps de passage. Même la Ligue allemande a autorisé qu'il puisse avoir signé son premier contrat professionnel et qu'il puisse jouer, alors que normalement on n'a pas le droit à un âge, avant un âge certain, etc. Donc il est en avance sur tout le monde. Sauf que ça reste un espoir. Et moi, cet espoir, je le vois pas arriver, en fait. On me l'a vendu, on me l'a survendu, honnêtement. C'est très clair. Maintenant, encore une fois, il a perdu un an l'année dernière. Là, on l'a fait jouer en Coupe d'Allemagne. On l'a fait jouer contre le Bayer Leverkusen. Un match au passage qui a été assez médiocre. Dans le sens où la rencontre, c'est trop tôt, dès la première journée, tu as Dortmund contre les Verts.
Ils sont pas prêts encore.
Oui, sauf le Bayern, encore une fois. Ouais. Ils sont pas prêts, sauf le Bayern. Le Bayern, il est prêt. Et donc, il y avait Adeyemi à droite, Malen qui se relance un petit peu, il y avait Moukoko, donc là, il y a Modeste qui va être là. C'est vrai que moi j'espère qu'il va faire une grande carrière, qu'il va prolonger, mais il va falloir aussi gérer l'effectif. C'est-à-dire que si Moukoko, faut le prêter 2 ans dans une équipe un peu moins huppée que le Borussia Dortmund, je pense à Stuttgart par exemple.
Et pour ça, il faudra le faire prolonger si tu veux le prêter.
Et voilà, et ça c'est un peu compliqué parce qu'il est très gourmand aussi, parce qu'il connaît son talent, surtout son entourage évidemment. Mais ça ça fait partie des négociations et moi je suis pas sûr qu'on en arrive. Si tu veux, toutes les semaines on nous annonce qu'il va bientôt prolonger, finalement ça se passe pas bien, voilà, donc on sait pas trop où on en est en ce moment, mais
est-ce qu'il est pas un peu ish-hague?
En général, les attaquants sont souvent Ich Hager. Ça, c'est très clair. Donc c'est moi, Société Anonyme. Oui. En général, les attaquants sont très individualistes, mais ça, et égoïstes. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est voilà. En tout cas, pour Anthony Nwodej, je pense que c'est une excellente chose. Pour Mokoko, ce qui va lui arriver, je ne sais pas trop. En tout cas, il faudra clairement qu'il joue systématiquement.
Merci Polo pour ce point sur la partie transfert de la Bundesliga.
Et Timo Werner, juste rapide.
Ah oui, Timo Werner, effectivement, à Leipzig, une équipe qu'on aime bien suivre.
Ouais, juste rapide parce que apparemment c'est dans le tube. Hein, je crois pas que c'est signé encore. Le retour de Timo Werner à Leipzig, qui évidemment a eu une période, mais ça je parle sous le contrôle de Julien à Chelsea. Moi, ça m'intéresse vraiment de récupérer Timo Werner à Leipzig parce que je me rappelle de lui lorsqu'il évoluait sous Nagelsmann. Le problème, c'est que un, tu le fais jouer où, et deux, quand est-ce qu'il va sortir la tête du sac, quoi. Et ça va
c'est être un Timo Werner très différent à Montpellier de celui que tu avais vu à l'époque. Hein.
Ouais, c'est fort possible. Donc ça va être une prise de risque. D'un autre côté, je me dis que la concurrence, parce que Silva, je l'ai encore une fois trouvé très moyen à Stuttgart. Nkunku, évidemment, c'est difficile de sortir. Olmo, il est sur courant alternatif. Donc Szoboszlai, on ne sait pas trop où le mettre. Si Timo Werner vient en plus, qu'est-ce qu'on fait de Fosberg?
Une seconde, il y a un but à Caen. Ouais. Christophe Lécuyer.
Et l'ouverture du score pour le Stade Malherbe de Caen ici après 38 minutes de jeu. C'est le grand, l'immense Djibril Diani qui dans la surface de réparation. On vient reprendre de la tête ce corner qui avait été dévié dans un premier temps et qui s'en va surprendre Oukidja. C'est pas immérité pour Décané qui avait quand même globalement la maîtrise du jeu sur cette première période, mais les deux équipes avaient du mal à se créer véritablement des occasions. Et bien voilà, c'est sur un coup de pied arrêté, c'est finalement assez logique que le score est débloqué pour l'instant. Le but de la tête signé Djibril Diani pour le Stade Malherbe de Caen. Il reste un petit peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première période et Caen mène à but à 0.
Metz et Laszlo Bologny pourront se poser de sérieuses questions sur la façon dont ils l'ont concédé, ce corner, parce que c'était clairement évitable et ils se retrouvent punis sur le corner consécutif. Retour à Timo Werner, messieurs. On continue à parler de lui, de son potentiel retour à Leipzig. Hein. On rappelle qu'il avait joué 159 matchs avec Leipzig en Bundesliga, en tout cas presque 100 buts marqués, 96. Julien, tu le disais, c'est un attaquant qui est en panne totale d'efficacité, en panne totale de confiance. Il a que 26 ans aussi.
Oui, il est jeune, non mais c'est sûr, je pense qu'il peut encore retrouver son meilleur niveau à Leipzig ou ailleurs. Il y a la Coupe du Monde qui arrive et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il a cherché à quitter Chelsea, parce qu'il sait très bien qu'il n'aurait pas beaucoup joué et qu'il n'aurait pas joué à son poste non plus. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché en Angleterre, c'est parce qu'on ne l'a jamais vraiment utilisé comme il le fallait finalement, et dans un système qui lui convenait, dans un style de jeu qui lui convenait aussi. Après, je l'ai vu rater certaines occasions. Sincèrement, c'était trop gros pour qu'il les rate. Et je pense que c'est un joueur qui mentalement n'était peut-être pas au niveau de ce que Chelsea voulait ou la Première Ligue.
Et puis en Première Ligue, t'as pas le même volume d'occasions qu'en Bundesliga, Julien. Ouais, moi, je me rappelle de matchs à Leipzig où il était capable d'en rater 2-3, mais de terminer avec un doublé parce que il y avait énormément de situations. Et à Chelsea, c'est différent dans les gros matchs, dans les grosses rencontres.
Ouais, c'est sûr. Et puis il y a vraiment des gros ratés desquels tu en reviens que si t'es vraiment fort mentalement. Et je pense qu'il a beaucoup souffert aussi des critiques et de tout ce qu'il y avait autour de lui, autour du club, avec les tableaux, etc. C'est dommage parce que ça aurait pu bien marcher. Et
ouais, son prix l'a peut-être un peu inhibé.
Et le prix aussi, ouais.
Polo, la question. Peut-être. Un peu trop gentil,
c'est sympa, ouais, ouais. C'est un peu.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Pas assez Ich Hager. En tout cas,
pas assez méchant, pas assez Bayern.
Polo, si tu le renvoies à Leipzig, tu le fais jouer où?
C'est ça le problème.
Parce que t'as Olmo en soutien d'Nkunku et de Silva, ouais. A priori.
Donc à la rigueur, tu peux le dire qu'il est en concurrence avec Silva, mais est-ce que c'est un véritable numéro 9? Je ne pense pas. Ce que tout le monde a oublié, c'est que lorsqu'il jouait sous Nagelsmann jouait souvent, on parle toujours de la défense à 3 de Nagelsmann, etc. Mais il jouait souvent en 4-4-2 à l'époque.
Et il y avait Poulsen avec lui.
Et il y avait Poulsen, donc le géant à côté, et lui. Ou alors il jouait aussi dans une défense à 3, mais il jouait en attaquant de soutien, côté gauche, etc. Sauf que ce poste là est souvent utilisé par Nkunku en priorité, donc ça va être délicat de le relancer. Maintenant, la bonne nouvelle pour moi, c'est que je vous ai dit la semaine dernière lorsque Nkunku a prolongé, ce qui n'était pas gagné du tout au départ, Leipzig avait annoncé des recrutements très importants, et le retour d'un attaquant comme Werner, même si évidemment il va falloir qu'il se refasse la cerise et que c'est pas celui qui est parti aller comme qui est parti il y a quelques années du club saxon, c'est pour moi c'est une bonne bonne nouvelle. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas, entre guillemets, notre 11 de départ avec des petits jeunes, etc. On peut peut-être essayer de récupérer des joueurs qui ont un certain talent. On attend un annonce Sesko aussi qui va arriver, alors peut-être en 2023. Et donc, ils vont peut-être l'acheter cette saison, et puis, parce qu'ils ont beaucoup de trésorerie, et puis le récupérer finalement que l'année prochaine. Mais ça annonce peut-être, et c'est le débat qu'on avait eu avec Walid la semaine dernière, c'est peut-être que, parce que le plafond de verre là de Leipzig est arrivé, c'est le débat qu'on avait fait avec Johan et Fred et Julien l'année dernière sur comment est-ce que Leipzig peut faire pour rentrer dans le top 8 européen. Si maintenant Leipzig peut commencer à avoir une densité dans son effectif qui fait qu'il y a une concurrence quasiment à tous les postes, je pense que ça peut faire rentrer le club de Leipzig dans une autre dimension. Pas forcément évidemment aller embêter les grands clubs européens, mais commencer à dire, ah on est là, si j'ai un blessé c'est pas grave. L'année dernière, si Nkunku se blesse, Olmo, il est quand même sur courant alternatif. Silva, c'est pas le Silva qu'on avait vu à Francfort. Et puis, Johan le sait, en Italie, ça a été compliqué pour lui, etc. Donc, voilà, ouais, ça me plaît.
Ils peuvent passer du rookie en Europe au niveau de récurrent en Europe. Voilà,
exactement.
Avoir des solutions alternatives.
Très bien, merci pour cette page transfert sur la Bundesliga. L'After revient dans un instant, on continue à vous parler. On a plein d'histoires, on n'arrivera même pas à toutes vous les raconter. Du coup, il y aura encore des drôles de dames, encore dans la semaine. Et évidemment, lundi prochain, vous prenez l'habitude, les drôles de dames, ce sera tous les lundis de 20h à 22h.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémont.
21h30, on a encore une demi-heure avec les drôles de dames. À partir de 22h, Gilbert Bribois, le taulier, reprend la main pour la suite et la fin de l'after. On va très rapidement parler de la Roma, mais juste avant, Walid avait une question pour Polo.
Oui, j'avais une question pour Polo. J'ai vu que Angelino avait signé à Hoffenheim. Et je voulais te poser la question parce que dans un secteur un peu sinistré en Europe, j'étais très étonné. Alors je regarde pas tous les matchs de Leipzig, mais qu'il parte déjà du club. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé plutôt intéressant.
Ah, moi j'adore ce joueur.
Ouais, et de le voir atterrir à Hoffenheim, j'étais un peu surpris. Alors peut-être que je sais qu'il y a David Rome qui est
arrivé, mais par City, le gars, c'est quand même un défenseur latéral d'un sacré standing.
Ouais, je trouve que c'est. Donc je voulais questionner Polo.
Non mais déjà c'est une fabuleuse opération pour Hoffenheim.
Ah, ça, oui.
Ça montre la puissance de ce club qui d'ailleurs m'énerve beaucoup lorsque je vois l'effectif chaque saison, parce que là on est quasiment, ce que je dis, c'est un club laboratoire où il manque une véritable ferveur populaire, alors qu'ils ont des moyens financiers, notamment grâce au milliardaire Dietmar Hope, mais qui s'autofinance au passage, qui est encore en phase de croissance. Ils ont quasiment deux effectifs dans leur groupe. Ils pourraient mettre deux joueurs, deux équipes titulaires différentes. C'est, je pense, une excellente chose. Alors, il est prêté, rappelons-le. Oui. Hein, il n'est pas acheté. Alors, Angelino, il a un petit problème. D'ailleurs, moi, je me rappelle très bien que Julien n'en voulait pas à l'époque où il était à Manchester City et lorsqu'on l'avait récupéré à Leipzig. Angelino, il a un petit problème. C'est qu'en fait, il joue bien lorsqu'il est en négociation de contrat ou que son contrat commence à être délicat ou on ne sait pas trop. À partir du moment où il est installé, ben, c'est pas le même joueur. Donc, il a un côté je m'en bourgeoise assez rapidement. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop si c'est un latéral. Alors, il joue en piston gauche, évidemment, dans une défense à 3. D'ailleurs, à Hoffenheim, ça va être très très bien parce qu'il manque quelqu'un. D'ailleurs, avec le départ, ils ont fait un échange avec David Rome. Enfin, il y a 26 millions d'un côté et puis un prêt de l'autre. C'est pas tout à fait pareil. On sait les caisses de Hoffenheim vont être bien remplies. Mais c'est un joueur extrêmement... Comment je pourrais dire ça ? Il est...
Irrégulier ?
Il est très très irrégulier.
D'accord.
Lorsqu'il est dans des périodes pendant 3 mois, il peut être l'un des meilleurs latéraux d'Europe, j'ai le sentiment. Mais il y a des moments, tu vois, faut le pousser un peu.
D'accord,
au cul, okay. Je sais pas pourquoi.
Et moi, d'ailleurs, je l'ai en phase de poule contre la phase de poule Manchester United PSG, là, notamment il avait fait des matchs assez quand même.
Ah oui, non, mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas décidé, mais c'est des périodes en fait. Pendant un trimestre, il va être exceptionnel. Okay. Et il a ce problème, faut le pousser un petit peu au cul. Je rappelle quand même qu'il est même pas encore international espagnol. Alors c'est vrai que l'équipe d'Espagne nous a habitués depuis des années à sortir beaucoup de latéraux et d'un certain niveau. Mais voilà, c'est peut-être un peu son problème à Angelino. Lorsqu'il a pas envie de jouer, ben il joue pas. Donc c'est un peu délicat. J'aurais préféré le garder à Leipzig pour le mettre en concurrence avec Rome, par exemple. Parce que ça aurait pu être quelque chose d'assez exceptionnel.
J'aurais préféré le voir autre part qu'à Hoffenheim, personnellement. Mais...
Ah, c'est très bien, Hoffenheim.
mi-temps à quand, Christophe Lécuyer?
Oui, 1-0 pour les Normands à la mi-temps. Le but marqué, on le rappelle, à la 39e tout à l'heure par le grand Diani, 1m95 après une partie de billard dans la surface messine. Le corner de Brahimi, une première tête de Thomas, une deuxième d'Essendé et la troisième de Diani pour mettre le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Stade Malherbe à la pause.
Et un match tendu entre Caen et Metz. On a dit qu'on allait parler de la Roma. C'est à toi, Johan. Il y a à la Roma, avec la victoire en Europa Conference League, qui n'est pas toujours perçue comme la Coupe des Coupes. En tout cas, il ne sera jamais les premiers à l'avoir remporté. Je ne sais pas comment ça se dit en italien. Mais voilà, il y a un renouveau d'enthousiasme autour du club de la capitale.
Ouais, ça avait déjà commencé avec l'arrivée de Mourinho. L'arrivée de Mourinho l'été dernier, parce que en Italie, on a en tête le Mourinho de l'Inter. C'est parfois un peu le problème en Italie, c'est qu'on a le souvenir des joueurs quand ils sont passés en Italie, des joueurs ou des entraîneurs quand ils sont passés en Italie, et puis après, il y a eu du chemin. Et bah, parfois, je pense à Paul Pogba, par exemple. Tout le monde, quand il est revenu à la Juve, tout le monde a dit incroyable transfert, etc. Bon, il faut regarder aussi ce qu'il a fait à United. C'est pas le même Paul Pogba que quand il était sous les ordres de Conte et d'Allegri. Donc il y a eu le retour de Mourinho, il y a eu un mercato où l'année dernière ils ont pas perdu de joueur majeur, ce qui est extrêmement rare à la Roma. La Roma, si vous prenez l'ère Palotta, donc le président précédent, enfin président propriétaire précédent d'ailleurs, tous les ans ils perdaient leurs meilleurs joueurs. C'était Marquinhos, c'était Mehdi Benatia, c'était Miralem Pjanic, c'était Radja Nainggolan, c'était bon bref, il y en a d'autres, ouais, qui m'échappent, mais il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés et qui Alisson, Salah, enfin, voilà, il y a eu quand même des
Rudiger,
Rudiger exactement, qui venaient et qui partaient. Et là les Friedkin ont un plan un petit peu plus ambitieux, ou en tout cas ils ont concocté un plan où ils regardaient pas trop la dépense sur les 2-3 premières années. Où il n'y avait pas une exigence de bilan, en tout cas très forte. Donc ils ont gardé des joueurs. Il y a eu la victoire en Conference League. En championnat, ça a été plus compliqué. Disons qu'il y a eu des très hauts et des très bas en termes de jeu. Et puis là, cet été, bah forcément, l'enthousiasme augmente encore, parce que il y a Dybala, parce qu'il y a Wijnaldum, parce qu'il y a un mercato qui est assez ambitieux. Et en plus, un mercato ambitieux sans trop dépenser d'argent, c'est ça qui est assez étonnant, parce que c'est qu'ils font quasiment que des joueurs libres. Le deuxième gardien de Benfica, il est libre. Celik, il a coûté 7 millions d'euros. Matic, bon, je suis pas un énorme fan, hein. J'ai beaucoup de doutes sur Matic, mais il est libre. Dybala, il est libre. Wijnaldum, il vient en prêt. S'ils font Belotti, il est libre. Et en plus, de l'autre côté, ils ont vendu, ou ils sont en passe de vendre, de prêter avec option, obligation d'achat, pas mal de joueurs. Donc, ils sont en train de dégraisser très fort et de enfin éliminer le travail de Monchi, qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il y a un enthousiasme réel. Il suffisait de voir le match hier contre le Shakhtar. C'était présentation des joueurs. C'est un truc un peu habituel à Rome, qui n'a pas eu, évidemment, en période de Covid. Mais on appelle les joueurs au centre du terrain et on fait la fête, etc. Et après, il y a un dernier match de préparation. Le stade était plein. Il y a une ambiance comme, je vais pas dire, j'ai rarement vu, mais à ce point-là,
il y a un vrai engouement.
Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Moi, qui me rappelle l'été 2000. Il y a plein de points de comparaison. Il y a le mercato ambitieux, première chose. En 2000, ils avaient fait venir quand même Batistuta, Walter Samuel et Emerson, le Brésilien, sans perdre de joueurs majeurs déjà à l'époque. En 2000, c'était la deuxième saison de Capello, entraîneur à Poigne. Donc, il avait déjà mis un an pour s'adapter. Et d'ailleurs, en championnat, je crois qu'il avait fini 5e ou 6e, donc un peu comme Mourinho. Mourinho, entraîneur à Poigne, deuxième saison également.
Surtout que Mourinho, les deuxièmes saisons, c'est souvent...
On verra, mais ouais. Voilà, il y a cette réputation-là. Et puis, il y a aussi plein de joueurs sympas. Et ça, quand tu cherches à rapprocher tes supporters, à les convaincre de venir, etc., réussir à s'identifier à des joueurs, sportivement évidemment, mais aussi parce qu'ils sont sympas, qu'ils sont cool, qu'ils montrent qu'ils sont attachés à ce qui se passe à la Roma. Je pense à Tammy Abraham, tout bête. Mais lui, il a rien à voir avec la Roma de base. Il est arrivé l'été dernier, mais ça a matché tout de suite. Il a été impressionné par l'hymne chante avant les matchs. Je le sens qu'il des fois chante. Bon, il chante que Roma, Roma, Roma. C'est le couplet le plus simple, hein, de l'hymne. Mais il le chante.
Puis il dégage un truc, Abraham. Au-delà de, il a mis 7 buts, hein, mais il dégage quelque chose. Il y a une insouciance.
Ouais, et puis il y a ce côté je lâche rien qu'on a à Rome aussi. C'est pour ça qu'un joueur comme Nainggolan était aussi adoré à Rome. T'as un joueur comme Pellegrini évidemment qui perpétue la tradition des Romains, capitaine, etc. Donc t'as plein de joueurs vraiment attachants, Mancini, Smalling, qui sont sympas.
Non, etc. Mais moi j'ai vraiment cette année, je suis très excité, je suis très intrigué par ce que va faire Mourinho avec cette équipe, parce que tu l'as dit, il s'est passé quelque chose. On a vu sur les réseaux sociaux, notamment avec l'arrivée de Dybala. Je crois que j'ai vu une info comme quoi le nombre de maillots vendus par Dybala sur les derniers jours, c'est assez impressionnant. Et puis je trouve que l'année dernière, il y a quand même un socle de joueurs. Tu prends Rui Patricio, il y a de l'expérience. Tu prends derrière Smalling, il y a de l'expérience. Wijnaldum, Tchouameni qui vient d'arriver, Dybala la magie, Abraham qui met des buts, Zaniolo, je pensais qu'il allait partir à la Juventus, finalement j'ai l'impression qu'il reste. Avec Mourinho, j'ai envie d'y croire. Après le titre, ce sera peut-être trop pour la Roma, mais au moins se mêler, au moins créer quelque chose. On l'a vu hein, avec l'Inter, avec l'AC Milan, avec une dynamique de victoire, tu peux à un moment donné te raconter une histoire à tes supporters. Et moi cette année, je suis intrigué par ce qu'ils vont faire.
Alors d'abord, je voudrais distribuer un bon point à Walid pour, je vois, je dis excité, intrigué plutôt que hypé.
Oui, bah, j'ai essayé. On m'a dit.
C'est une noble langue.
On m'a dit.
Je te remercie.
On m'a dit de faire des efforts là-dessus.
Je te remercie. Ouais. Non, enthousiasme à la Roma, Yann Crochet. Oui, au point d'aller titiller le haut de tableau et de pouvoir exister.
C'est ce dont il rêve, évidemment. Moi, je pense que ça va être encore juste. Parce qu'il y a aussi plein d'inconnus là-dedans. Il y a un recrutement qui est bon.
J'ai oublié Spinazzola qui va revenir.
Ouais, Zalewski qui avait fait une super fin de saison aussi comme doublure ou remplaçant momentané de Spinazzola. Il y a quand même un dilemme tactique qui va se poser parce que évidemment il y a Wijnaldum, il y a Zaniolo, il y a Abraham, il y a Pellegrini, il y a Dybala. Ils vont pas pouvoir tous jouer en même temps. Est-ce que tu pars sur l'idée d'avoir Pellegrini plus Zaniolo, Dybala et Abraham? Je pense que sur certaines configurations de match, il pourra proposer ça. Je pense que sur d'autres, ça sera trop juste, même si Zaniolo.
Il y a l'Europa League, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un effectif.
C'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que rempli. En fait, là, ils vont pas se plaindre d'avoir des joueurs et c'est des choix. C'est ça le truc.
Tous les ans, tu regardais l'armada offensive de la Roma, c'était toujours à flux tendu.
C'est ça.
Là, ça va être important. Et puis, t'as des joueurs quand même, je trouve, malléables, moi, tactiquement. Wijnaldum peut jouer un peu plus bas. Même si Pellegrini, je le préfère lancer plus haut, il peut aussi dépanner un peu plus bas, dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Dybala, il peut être exilé côté, même s'il est meilleur numéro 10, mais pour rentrer avec sa fameuse patte. Zaniolo, la même chose. Moi, je trouve qu'il a quand même des solutions, Mourinho, pour faire quelque chose de bien. Et puis, tu connais hein, les saisons, l'appétit vient en mangeant.
Ouais, c'est sûr.
Avec un bon début de saison.
Non, là, disons qu'en plus, il y a eu un but hier contre le Shakhtar où tu as une combinaison Pellegrini,
Dybala.
Zaniolo, Dybala, Abraham, Pellegrini qui marque derrière, tout au sol en une touche de balle qui est somptueuse. Donc tu dis, quand ça marche comme ça, c'était que le Shakhtar qui en préparation, il n'y a plus le même genre au Shakhtar, il n'y a pas de problème là-dessus. Si ça tourne comme ça, avec des combinaisons au sol comme ça, des mecs qui ont envie de jouer ensemble, qui jouent vite, etc., ça va dans l'évolution du foot, de jouer en une touche de balle, vite, verticale, etc., beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, etc. Maintenant, j'ai quand même un doute sur le milieu de terrain en phase défensive. Moi, Matic, bon, j'ai beaucoup de doutes. Cristante, vous commencez à savoir ce que je pense de Cristante. C'est très compliqué défensivement. Et donc, quand tu as un milieu qui protège pas ta défense, elle est tout de suite très exposée. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée que les défenseurs sont parfois un peu justes individuellement. Mais je pense aussi qu'ils sont pas aidés par ce qui se passe devant eux.
Merci pour ce point sur la Roma qu'on va suivre avec attention après cette mise en bouche que tu nous as offert sur une saison.
Pourquoi pas mise en bouche, j'ai très faim.
Tu as très faim. On a tous très faim concernant la Roma. On a très envie de. Puis on a envie de revoir la Roma en haut, en fait, d'une manière générale. Quand on regarde le foot italien, les clubs du Nord, il y a Naples. Puis on a envie d'avoir la Roma entre les deux.
Quand tu vois ce qui s'est passé pour une Conference League avec 100 000 personnes dans les rues, tu te dis qu'avec un Scudetto ou une Europa League, ça peut être pas mal.
On n'a pas fini de voir Mourinho pleurer. On revient dans un instant, messieurs. Je vous garde avec moi. On va parler d'Espagne, mais je voudrais avoir votre avis, bien évidemment. On va parler notamment du Barça tout de suite.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
21h44, on est de retour dans l'after, on est ensemble jusqu'à minuit. Dans un quart d'heure, c'est Gilbert qui viendra vous parler notamment du foot français. On va également se pencher sur le cas de l'Espagne. On a longuement parlé de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Barça. Alors évidemment, quand on parle du Barça actuellement, il y a une notification qui tombe sur l'AFP Reuters toutes les deux minutes et sur rmcsport.fr bien sûr, parce que il y a des situations internes avec cette dette d'1,3 milliard qui a été étalée sur 25 ans au lieu de 10, sur des besoins financiers immédiats pour rembourser Gérard Piqué, pour permettre d'inscrire les joueurs recrutés sur la feuille de match dès ce week-end, hein, pour tout simplement pouvoir les inscrire, pour avoir leur licence pour disputer la saison. Il y a beaucoup de choses en coulisses, c'est très complexe, un quart d'heure ne suffirait pas. On va donc plutôt s'intéresser aux sportifs, messieurs, si vous le voulez bien. Avec nous, il y a Riyad qui est en plateau, qui est un auditeur fidèle de l'After. Salut Riyad.
Salut à vous.
Supporter du Barça,
salut Riyad,
notamment.
Exactement.
D'où ta présence. Et puis, il y a également Johan qui est socios. Est-ce qu'il est avec nous, Johan?
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Johan. Comment
salut
ça
Johan.
Va
Salut, Johan.
Ça va, écoutez.
Socios du Barça. On le disait rapidement, on va s'intéresser aux sportifs, mais là, pour le coup, je m'adresse aux socios. Tu es indirectement, même, enfin, directement concerné, même si de façon assez, assez lointaine. Ce marasme en coulisses, comment c'est vécu par un socios comme celui que tu es, par le peuple catalan au sens plus large?
Si concerné, je mets des sous tous les ans quand même.
Ouais.
Donc c'est ça ressemble un peu à un soap opéra. Hein. Tous les jours, on a de nouvelles informations. Moi, c'est une période en plus que j'apprécie très peu dans le football, le mercato, parce qu'on parle pas de sportifs, mais on est plus sur la une des journaux. Et puis quand vous voulez suivre le mercato avec les journaux espagnols, c'est un peu le concours de la rumeur infondée et tous les jours on en apprend de nouvelles. La dernière aujourd'hui, c'est que le contrat signé par De Jong sous Bartomeu ne serait pas légal et il a été demandé à De Jong de faire une croix sur son contrat actuel et de revenir à son contrat initial. Donc vous voyez des infos vraiment assez incroyables et assez exceptionnelles qui peuvent tomber tous les jours.
Tout ça en réalité pour essayer de grappiller un peu d'argent et justement d'aller chercher cet argent nécessaire à l'inscription des recrues estivales pour la Liga à venir. Alors bon, t'aimes pas parler mercato, on va pas en parler, on va parler sportif si tu le veux bien. Il y a eu un fort mercato, justement, moi, j'y reviens.
Excuse-moi Timothée, j'aurais une vraie question pour le socios, moi.
Alors vas-y Polo.
Bah, j'arrive pas à bien comprendre votre concept de socios en Espagne. si vous découvrez chaque année les bilans et le compte de résultats du FC Barcelone, quoi. Parce que moi je connais parfaitement les comptes de l'Union de Berlin, tu vois, depuis 20 ans. Donc en fait, vous êtes socios, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur du club. Donc je ne sais pas ce que c'est que le concept de socios en Espagne, quoi.
Alors si on est au courant...
C'est de la provocation, après, évidemment.
Non, c'est pas...
On a l'impression qu'on découvre... Moi, quel est votre pouvoir, en fait?
Non. Alors en fait, moi c'est, je vais parler vraiment à titre personnel. Je l'avoue, c'est pas la partie qui m'intéresse. Et c'est vrai que lire les comptes que l'on reçoit tous les ans, c'est vraiment pas la partie qui me passionne le plus. J'ai déjà du mal à les faire.
Elle est vitale pourtant. Hein.
Oui, je suis complètement d'accord. Mais effectivement, c'est une partie qui a beaucoup de difficultés à me passionner Effectivement, la dette, on la voit se creuser depuis réellement, parce que en fait, tout le monde tombe sur Bartomeu, mais ça a commencé bien avant. Ça, déjà à la fin du premier mandat de.
Et alors, moi, je vais aller plus loin ma question. Comment se fait-il qu'au sein du Barça, chez les socios, il n'y ait pas de contre-pouvoir? Bon, je vais juste citer ce que dit Lyonnais. Il dit, si un club comme le Barça joue en Bundesliga, il sera en liquidation judiciaire depuis 20 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, les socios, parce que moi j'entends le mot socios en France, vous savez que moi je me pose à ça, parce qu'on nous vend l'Espagne comme le pays des associations, ce qui est complètement faux, c'est l'Allemagne le pays des associations, mais d'ailleurs tous les journalistes français utilisent le mot socios à tort et à travers, on l'utilise même en marketing en ce moment, avec d'ailleurs des trous juridiques dans tous les sens, quand il faut savoir exactement ce que ça veut dire, mais c'est marrant qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire moi, alors, je dis ça évidemment à dessein, parce que je me suis renseigné un petit peu avec des amis qui s'y connaissent en juridique, et que le système des socios en fait en Espagne a été tellement vérolé depuis des années parce que les dirigeants des clubs espagnols font passer des amendements en gros qui sont votés par tout le monde, que les gens ne comprennent pas pourquoi ils votent et pour ce quoi ils doivent voter, et au bout d'un moment on se rend compte que le système des socios c'est un peu pipeau, quoi. C'est-à-dire qu'on dit ah, les socios, les ceci et cela, mais en fait comment se fait-il qu'à l'intérieur du club, ou tout simplement les socios, dont il y a plus de 100 000 si ma mémoire ne me fait pas défaut avec le FC Barcelone, il n'y ait pas des amendements qui disent question, qu'est-ce qui se passe là? Parce que toi tu dis que ça t'intéresse pas, c'est une chose, mais je pense qu'il y a différents socios barcelonais qui s'intéressent à l'évolution financière de leur club, et depuis des années.
Alors, je vais pas saouler tout le monde avec le sujet, mais si on prend l'exemple de Bartomeu, rien que pour déposer une motion de censure, c'est très très compliqué. Il faut avoir une majorité importante de signataires à la motion de censure, et il a fallu un cas exceptionnel comme le possible départ de Messi que je dise pas de bêtises, en 2020, pour déclencher une motion de censure envers Bartomeu. Ouais. Mais c'est très très compliqué dans les statuts de déclencher une motion de censure. Et finalement, il y a que le vote pour la présidence qui permet de s'exprimer, on va dire, réellement en ayant un poids.
On a bien compris que la gestion bon père de famille de Polo Breitner avec l'Union de Berlin ne correspondait pas tout à fait avec ce qui a été fait, et que peut-être que motion de censure, il aurait fallu
commencer à creuser. J'ai des capitaux propres négatifs, j'en suis complètement fond. Je sais quasiment la création d'un nouveau club, l'Union de Berlin, mais je sais ce qu'ils font.
On en fera un autre débat.
On en fera un autre débat, Polo, même si j'ai bien compris ton opinion.
Moi, c'est intéressant. Ça sert à quoi un socios, en fait?
On se posera cette question. C'est un bon sujet. C'est un bon débat. After, en plus. Donc, on le fera. On va juste, parce que là, c'est pareil. Même si on décidait de le faire maintenant, on va manquer de temps. Donc, on le bâclerait. Ce serait pas une bonne chose. On va parler du sportif avec toi, Johan, avec toi, Riyad. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Christensen, Kessié, après une saison de transition, après une saison, il a fallu se remettre côté Barça qui était KO debout du départ de Messi. Est-ce que cette équipe de Barcelone, finalement, en Europe, c'est pas celle que vous avez le plus envie de voir parce que c'est le nouveau Barça? Riyad.
Moi, en tant que supporter du Barça, forcément, je suis intrigué, je suis hypé pour le terme de Walid.
Attention.
Ah, je prends mon joker. Je suis hypé. Après, faut savoir aussi raison garder. En Europe, il y a d'autres belles équipes. Il y a Mané au Bayern, il y a Haaland à City, il y a le PSG avec le renouveau Galtier-Campos. C'est intéressant aussi. Maintenant, moi, ce que je veux voir au Barça, c'est surtout comment la mayonnaise va prendre, parce que Xavi a démontré des belles choses l'an dernier. Aujourd'hui, on lui met entre les mains du très bon matériel. On vient lui ajouter de l'expérience et des joueurs de talent en plus de ce qu'il y avait, et surtout des prémices de ce qu'on a pu voir sur la jeunesse, Gavi plutôt.
Pedri. Araujo.
Araujo, exactement.
Fati
qui revient. Et je rajouterais même un recrutement supplémentaire, c'est celui finalement de Dembélé. Parce que la prolongation, pour moi, ça va lui permettre de se lâcher et aussi de démontrer tout ce qu'il a comme talent. Donc clairement, pour faire court, c'est effectivement, pour moi, c'est très intéressant de voir comment Xavi va gérer tout ça et comment ça va prendre aussi. Et on a eu les prémices sur les matchs d'hier. Il y a eu un match notamment face au Pumas où il y a eu des combinaisons très intéressantes entre Pedri et Lewandowski. Et là, ce serait vraiment.
Non, mais c'est vrai que la prépa, parce qu'on parlait de sportif, mais globalement, quand on voit ce que fait Dembélé, quand on voit ce qu'a fait Rafinha, quand on voit hier, tu disais les échanges entre Lewandowski et Pedri plein axe, on sent qu'il y a un vrai potentiel par rapport à ce qu'a montré Xavi sur ce mois l'an dernier, le match contre le Napoli. On en a beaucoup parlé avec Johan Crochet la saison dernière, ce match retour avec plein de personnalités, le match contre le Real Madrid au Bernabéu, contre l'Atlético Madrid, même si sur la fin ça s'est un petit peu gâté, même si parce que la deuxième place était un peu assurée, mais si tu rajoutes ce travail-là de la part de Xavi avec l'effectif qui s'est fourni et qui s'est renforcé quantitativement et surtout qualitativement, ça laisse présager pas mal de promesses cette année.
Johan, socios du Barça, est-ce que tu penses qu'avec cet effectif-là, le Barça peut reprendre sa position qui est la sienne en Europe, pas nécessairement gagner la Ligue des Champions, mais au moins
déjà
s'assurer de jouer le titre et puis s'assurer de redevenir un grand d'Europe comme il l'a été, comme il l'est toujours, parce que finalement il y a eu qu'une année véritablement de creux, mais elle a tellement marqué les esprits cette année.
Non, il y en a eu plusieurs des années de creux, parce que entre l'année dernière, l'élimination en poule, le huitième de finale contre le PSG et les remontada, les 8-2 contre le Bayern, etc. En fait, la dernière année où le Barça était présent, c'était 2019. Sinon, après, c'était des éliminations précoces. Et effectivement, je reprends les termes. Hein, on est impatient de voir si la mayonnaise va prendre et si cette équipe va normalement permettre de bien concurrencer le Real, qui eux, malgré tout, ont une équipe assez stable, qu'on annonce vieillissante depuis des années, mais qui continue d'enquiller les titres, les Ligues des Champions. Donc oui, à un moment donné, on a envie de revenir. On pensait, il y a à peu près un an, on ne pensait pas revenir aussi vite. On pensait qu'on était rentré dans un purgatoire, j'étais déjà passé chez vous, qui allait durer peut-être 2-3 ans. Bon, Laporta a, on va dire, pris des risques sur l'avenir du club pour permettre d'avoir une équipe assez rapidement compétitive. Et là, ça va être vraiment le chantier de Xavi d'arriver à faire tourner cette équipe pour qu'elle redevienne importante déjà au niveau national avant de le devenir à l'échelon européen.
Riyad.
Moi, je mettrais un bémol, c'est tout de même au niveau de l'intensité. En fait, sur les dernières années, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a vraiment un manque d'intensité entre la phase, on va dire, l'hégémonie qu'il y avait eu avec le trio magique au milieu de terrain. Et là, depuis, c'est très difficile. Xavi, j'ai l'impression qu'il va s'obstiner à garder Busquets
en élément fort du milieu. Malheureusement, ou
enfin, oui, ça c'est une question. On aimerait bien voir Frenkie de Jong à la place, mais là, bon, apparemment, il y en a qui veulent s'en séparer. Au
c'est sport, hein. C'est exactement ça le problème. Et dans le football moderne, l'intensité. Je suis désolé, Busquets. Moi, je suis un grand fan, mais aujourd'hui, c'est très difficile. Ouais. Il a plus
il
le.
Faut tourner la page. Oui, il faut tourner la page, mais c'est vrai que ça va être un des enjeux l'an prochain. Et avec les joueurs qu'il y a au milieu de terrain, normalement, tu peux te passer de Busquets. S'il y a Kessié qui vient d'arriver, Frenkie de Jong qui peut jouer au poste de numéro 6 s'il reste, Gavi, Pedri, même le petit Nico qui est encore là. Donc il y a quand même il a quand même beaucoup de choses dans son magasin, Xavi, pour essayer de compenser ça. Mais surtout le plus important, moi, dans ce mercato, parce que Yohan tout à l'heure en parlait, il aime pas trop parler de ça, mais on le disait tout à l'heure avec Manchester United, c'est que malgré la force de frappe du Barça, c'est qu'on a vraiment eu l'impression que cette équipe-là retrouvait de l'attractivité. Un Lewandowski qui veut quitter le Bayern pour aller au Barça, il l'a appelé de ses voeux très rapidement dans le mercato. Mm. Un mec comme Koundé qui a dit non, moi Xavi m'a appelé, je devais aller à Chelsea, je vais au Barça. Et bah c'est un club qui redevient attractif. Et ça c'est important parce que l'année dernière on avait très très peur côté Barça par rapport à ces manques de recrues qualitatives. Rafinha la même chose pour Chelsea, pour d'autres clubs. Donc ça c'est important.
Ça commence à en faire un certain nombre d'équipes qu'on a envie de suivre. Merci beaucoup Johan d'avoir été avec nous, socios du Barça. À très vite, tu nous rappelles évidemment pour évoquer plus longuement le cas du Barça. Merci les drôles de dames, merci Julien Laurence, merci Paulo Breitner, merci Johan Crochet, vous avez été brillant.
C'était très bien.
Moi j'attends le débat avec les socios.
On le fera. Merci Walid, merci Lumineux, merci Rian, tu es du Russon. À très vite messieurs dans l'after. L'after continue jusqu'à minuit avec Gilbert. Tout de suite, on va vite faire un tour du côté de la Ligue 2, le match entre le Stade Malherbe de Caen et Metz avec Christophe Lécuyer.
Ça s'anime un petit peu cette entame de seconde période. 55 minutes de jeu ici à Dornano, toujours ce score d'un but à zéro pour les Canets qui avaient marqué à la 39e par Diani. Mais Metz réagit avec Nian tout à l'heure qui a été rattrapé in extremis par Cissé, le défenseur Canet. Là c'est Mikotadze également qui s'est essayé. Bref, les Messins relèvent la tête. 55 minutes ici à Dornano, 1 but à 0 pour les Normands.
Merci Christophe, l'after continue, place à Gilbert.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.